On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Une délicieuse sauce classique.
Vous prenez un litre d'eau que vous faites soigneusement bouillir.
Taillez les échalotes en deux.
Prenez un deuxième litre d'eau que vous faites tiédir au romarin.
Je fais fondre mon beurre. J'ajoute le vin rouge.
Cela fait, vous versez goutte à goutte un autre litre d'eau fraîche dans l'eau tiède pour faire une bonne liaison.
J'ajoute l'ail, le laurier.
Vous montez en neige un bon litre et demi d'eau et vous incorporez cet appareil dans votre première préparation.
J'ajoute maintenant le jus de viande lié.
Et, pour clarifier, vous délayez le tout dans un litre d'eau.
J'incorpore maintenant le chocolat.
Vous obtenez ainsi une sauce au crabe très honorable.
Cette sauce très vineuse et très typée conviendra parfaitement à tout type de plat grillé.
La sauce au capre sans capre.
Elle met de bonne humeur, cette sauce au capre sans capre de, vous avez deviné?
Pierre Dac.
Ah, Pierre Dac, bravo Arnaud Daguin. On va parler aussi fond blanc, fond brun, sauce émulsionnée chaude, sauce froide, mayonnaise, béchamel aujourd'hui. On envoie la sauce. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Nous sommes en compagnie en ce dimanche et en direct d'un des meilleurs spécialistes des sauces en France. C'est Éric Trochon. Bonjour Éric.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Chef de Semilla, de Freddy's, deux bistrots de la rive gauche à Paris, cuisinier meilleur ouvrier de France. Même si vous ne portez pas votre tablier avec votre col tricolore aujourd'hui, vous êtes arrivé en casual wear.
Oui, hein, voilà, c'est
ça.
Dimanche.
En chemise, de très tranquille, c'est dimanche et vous avez bien raison. Vous êtes l'auteur d'une nouvelle bible de plus de 500 pages sur le sujet. Sauce, leçon en pas à pas pour apprendre à réaliser à la maison les grandes sauces de notre répertoire à l'appui quand même de 3000 photos signées de quel photographe?
Jean-Charles Vaillant qui a fait un travail formidable parce que c'était beaucoup beaucoup de photos. Vous en avez mis 3000 mais il y en avait 5000 au départ.
Waouh, et c'est absolument impressionnant de voir toutes ces photos comme ça en film pas à pas et c'est aux éditions du Chêne. On va parler avec vous beurre blanc, gribiche, sauce béarnaise et autres sauces du répertoire français. Et puis Éric Trochon, vous allez aussi faire la connaissance d'un jeune cuisinier assez étonnant. Il a 28 ans, il est originaire du Morbihan, il a été formé dans de grandes maisons. Il a décidé un jour de partir faire un tour de France en solo et à vélo pendant un an avec seulement sac et couteau au contact des gens qui font le terroir de France aujourd'hui, des producteurs, des restaurateurs, des pêcheurs. C'est Sébastien Formal. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
De votre tour de France gourmand, vous avez tiré un livre, Sébastien cuisinier à vélo, aux éditions Larousse. On va en parler ensemble et on va voir que vous maîtrisez aussi certaines sauces, hein.
On essaye, hein.
Oui, vous êtes un jeune cuisinier qui se respecte. Évidemment, vous connaissez votre solfège culinaire. Dans les fauteuils des chroniqueurs, Estherelle Payani et Arnaud Daguin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Hello.
Un coup de fouet d'Estherelle, mais qui fait pas trop mal. Un coup de lame d'Arnaud qui fait super mal. Ah bon. Laurent Thomas réalise l'émission. Nicolas Slimani à la technique. Nadia Chougui et Laure Grand Besançon à la préparation de l'émission. Vos sauces ratées ou réussies à la maison, vos questions sur le sujet, réagissez sur l'appli de France Inter ou envoyez-nous un mail à onvadéguster@radiofrance.com.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Estherelle Payani.
Yes.
Vous aimez beaucoup le lièvre à la royale.
Only avec vous, François-Régis Gaudry.
Oui. Ce lièvre à la royale était au cœur d'un big, big show culinaire dans lequel nous avons été tous les deux embarqués à Los Angeles. Oui, ce lièvre à la royale, nous l'avons choisi, jugé, testé dans le cadre d'une grande compétition culinaire diffusée depuis quelques jours sur Netflix.
Welcome to the final table. Today, connoisseurs consider this legendary French classic one of the most complicated to master. Hare à la Royale.
Lièvre à la Royale is maybe one of the most complicated recipe in the French repertoire.
Your dish must include wild hare, foie gras, and a sauce.
A lièvre à la Royale without a good sauce is not a lièvre à la Royale.
Estherelle and François, it's time to taste your national dish.
The good point is that I like the sauce. It's well balanced. We say in French, délicatesse.
When you have a sauce and you want to put some red inside, it's really a good sign.
Off we go.
The final table, tout le monde à table. pour la version française, un show américain avec beaucoup de musique dramatique, de tension, de suspense, on est d'accord, mais un concours culinaire très sérieux, Estherelle.
Un vrai concours avec un sacré niveau de cuisiniers. Ouais. Ils étaient 24 au départ qui viennent du monde entier et ils s'affrontaient lors de 9 épisodes autour d'une spécialité culinaire d'un pays, le Mexique, l'Italie, l'Espagne. Et nous intervenions à l'avant-dernier épisode, le numéro 9, pour représenter la France. Oui. Aux côtés de la chef Anne-Sophie Pic.
Bien sûr, 3 étoiles à Valence.
Qui a eu la lourde charge de départager qui irait en finale.
C'est
alors,
ça.
On ne va pas vous dévoiler les résultats si jamais vous choisissez de regarder tous les épisodes. Mais pour nous voir déguster du Hair à la Royale in English,
absolument,
avec des sous-titres.
Et on en a dégusté de très belles versions quand même. The Final Table, où tout le monde à table, une big battle culinaire à retrouver sur Netflix. Éric Trochon, là sous la main, on en profite. D'autant qu'il les meilleurs ouvriers de France. On est d'accord qu'un bon lièvre à la royale, ça repose aussi sur la qualité de sa sauce.
Alors d'abord un bon lièvre,
hein, oui,
c'est pas mal.
C'est vrai.
Et puis après, effectivement, une bonne sauce, bien équilibrée, vous en avez parlé. Délicatesse, pas facile parce que le lièvre, ça bastonne un peu quand même. Donc, il faut pas chercher la brutalité. Du sang, bien sûr, un petit carré de chocolat.
Et oui, c'est ça. Il y a une liaison au sang du lièvre.
Une liaison au sang du lièvre et puis un petit carré de chocolat. Et éventuellement, mais tout petit, on ne doit pas le dire.
Pour la rondeur,
pour la rondeur,
un peu d'amertume,
voilà.
Ou pour la rendre brillante aussi.
Non, c'est plutôt pour l'équilibrer.
C'est
après, faut pas forcer en sang. Il y en a qui n'en mettent pas. Chacun son truc.
Le lièvre à la royale, c'est donc un mélange de giboyeux et de finesse, en quelque sorte.
Rondeur,
c'est
oui.
de sombre et de lumineux. Hein,
c'est une recette un peu décadente. Il faut rappeler que le sénateur Couteau n'avait plus de dents, donc il fallait bien qu'il puisse manger. Mais pour moi, c'est une belle façon d'illustrer la sauce, puisqu'en fait, l'essentiel de ce qu'on va goûter dans cette recette-là, on l'a tiré des os et des abats du lièvre pour faire la sauce, de fait,
c'est ça.
Du braisage de la chair. Donc du coup, c'est vraiment un plat pour la sauce, le lièvre à la royale.
Vous l'aimez ou pas ?
Oui, j'aime bien. Oui.
Parce qu'on vous identifie toujours aux légumes, Arnaud. Vous adorez le lièvre à la royale ?
J'en ai fait plus souvent qu'à mon tour.
On a hâte de le goûter alors. On le goûtera peut-être un jour.
Peut-être.
Toutes les infos, nos coups de cœur, les recettes de nos invités sont retrouvées sur franceinter.fr à la page On va déguster. On y retrouve aussi le podcast de l'émission que vous êtes, chers auditeurs, de plus en plus nombreux à télécharger, à écouter. Le podcast dont on va déguster, on vous en remercie chaleureusement. La sauce à toutes les sauces, c'est le menu du jour. Juste après, Bonia de Fatoumata Diarra, choisi par notre ami Djoubaka. On a faim sur France Inter.
Do you want me?
On envoie la sauce et en rythme ce matin sur le plateau dont on va déguster. Nous sommes en direct et ravis d'être là. On commence, attention, par une petite énigme culinaire. Il faut deviner une célèbre sauce du répertoire français à partir de cet indice sonore.
Alors, il va vous falloir une réduction du vin blanc, des échalotes, tous les aromates que vous désirez, que l'on laisse cuire et réduire doucement, 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 doucement. Ensuite, 250 g de beurre. Le principe, émulsionner le beurre dans le liquide. Donc, je porte ma réduction à ébullition, je vais ajouter mon beurre petit à petit, sans jamais cesser de fouetter. Le beurre ne doit jamais bouillir. Au fur et à mesure que votre beurre est fondu, avant qu'il remonte trop en température, on rajoute un peu de beurre froid. Le beurre se sépare de la réduction au départ et vous avez un beurre fondu.
On va voir si Sébastien Formal, 28 ans, qui est censé maîtriser sa syntaxe culinaire, là, cette sauce dont on vient d'entendre à peu près le déroulé.
C'est le beurre blanc.
Ah, quand même. Passion beurre blanc dans la famille Formal, il paraît. C'est vraiment une histoire de famille, cette sauce.
Oui, petit, j'en ai fait avec mon père, suite à des retours de pêche sur la Ria d'Etel où... Entre Groix et Etel sur le bar, et donc le bar au four avec un riz blanc et un beurre blanc, c'était l'adage.
Votre père était donc pêcheur et cuisinier.
Il s'est mis à la cuisine un peu plus tard, mais certaines bases...
Il s'est mis à la cuisine pour mettre en avant et mettre en valeur sa pêche au fourneau.
Exactement.
C'est ça.
Ouais.
Donc le on va dire le plat de famille, le plat du dimanche, c'est le bar, sauvage, beurre blanc, riz basmati, c'est ça?
Quand la pêche est fructueuse, ouais, on peut dire ça.
Vous êtes d'accord à peu près avec ce déroulé réduction, vin blanc, échalote.
Nous, on met du vinaigre de cidre, du beurre demi-sel, en Bretagne.
Mm-hmm.
Et parfois, on met une pointe de crème. Certains, bah oui, mais bon, c'est comme ça.
Est-ce qu'il est d'accord, Eric? Alors,
la pointe de crème, ça sert à stabiliser la sauce si on en a l'utilité sur un long service.
C'est ça.
Après, quand elle est faite dans l'immédiat, c'est pas une nécessité.
Le beurre blanc, beaucoup de beurre, beaucoup de blanc. De vin blanc.
De vin blanc, oui, oui. Et de vin blanc. Avec une pointe d'acidité très importante pour équilibrer la sauce. Parce que, comme toutes les sauces françaises, elle a tendance à être un petit peu riche en beurre. Et à ce moment-là, il faut trouver l'équilibre à la fin, avec soit la goutte de effectivement vinaigre de cidre, mais un vinaigre de vin blanc de région, c'est encore mieux. Un petit vinaigre de muscadet, des choses comme ça.
Alors là,
le vin blanc bien réduit, ça fait la blague aussi, quand il a une acidité totale suffisante. Et en fait, la réduction permet d'arriver à ça. Il ne faut pas oublier qu'on vient d'une culture culinaire où toutes les sauces arrachaient le palais, hein, verjus, vinaigre.
Mais l'acidité, elle est aussi faite, j'imagine, pour contrebalancer la pesanteur du gras.
Absolument, c'est l'équilibre, c'est la pointe d'équilibre.
C'est le grease cut.
Et là, vous mettez les pieds dans une querelle, une de ces querelles dont la gastronomie française a le secret. Différence beurre blanc, beurre nantais, il y a encore des chefs dans l'ouest de la France qui s'écharpent sur ces deux sauces qui portent deux noms différents et qui, a priori, sont vraiment très très proches, voire sœurs jumelles.
Oui, absolument, ce sont deux beurres émulsionnés. Effectivement, après, ce sont des querelles de clochers. Beurre nantais avec muscadet et gros plan, tout simplement, et on termine par une petite goutte de vinaigre derrière.
Voilà. Donc vous êtes en train de nous dire qu'un beurre nantais, c'est finalement un beurre blanc où on n'utilise que du vin du Pays Nantais.
Que du vin du Pays Nantais. Donc... Et particularité, pour avoir travaillé avec Joseph Delphin à Nantes, il montait son beurre blanc avec une louche et pas avec un fouet. En fait.
C'est ça.
Et ça fait une différence notable puisqu'on n'incorpore pas d'air à l'intérieur. Il suffit de préserver l'émulsion naturelle du beurre.
Et justement, là vous mettez le doigt aussi sur une appréhension que partagent beaucoup de ceux qui nous écoutent, cette appréhension de la sauce à la maison, c'est une espèce d'épouvantail, on se dit oulala, c'est un truc très technique, de chef. C'est vrai que, bon, l'émulsion d'un beurre, Papa Formal a visiblement rajouté un petit peu de crème fraîche, est-ce pour stabiliser, est-ce pour le goût? C'est vrai qu'on a un peu peur de ces sauces, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Il y a deux paramètres, je crois, à respecter, et c'est toute l'ambition de votre livre, c'est de les rendre accessibles, ces sauces, à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il faut maîtriser effectivement les températures, il faut avoir les bons ustensiles.
Mais ça, c'est la cuisine française. Hein. Ce qui est chaud est chaud, ce qui est froid est froid.
Soit, des sauces rapidement, on peut les rater à cause d'un problème de température.
Absolument.
Soit c'est trop chaud, soit c'est trop froid.
Ça a l'air ridicule ce que je dis, mais ça ne l'est pas. Et c'est juste que souvent, un beurre blanc qui est trop froid, il a tendance à trancher, et un beurre blanc qui est trop chaud, il a tendance à trancher. Donc il faut respecter la bonne température. C'est le cas de toutes les émulsions chaudes, type béarnaise. Insuffisamment monté, insuffisamment chaud, ça ne marche pas.
C'est quoi
liquide.
La solution à la maison?
Pour les béarnaises, c'est le petit bain-marie.
Oui. Ou même le beurre blanc?
On n'est pas des chefs, absolument. On met ça sur une casserole d'eau tempérée et on monte sa béarnaise tranquille, sans avoir le coup de feu. Vous savez, sur les fourneaux, nos fourneaux vont très très fort, très vite. Et puis on est toujours, nous, dans l'urgence du service. Là, on ne l'est pas à la maison, on prend son temps, on prend un bain-marie et on contrôle la température de l'eau.
Il y a un avantage avec les plaques à induction aujourd'hui, c'est qu'elles ont des gradients très faibles et que sur souvent la position numéro 1, on arrive à avoir la température qui est un peu bain-marie pour peu que la casserole soit épaisse.
Plus de précision sur les températures. Il y a aussi évidemment l'ustensile. Là, en l'occurrence, on privilégie le fouet. On ne va pas s'aventurer.
Avec une petite louche.
Oui. Et un fouet en particulier ?
Non, un fouet assez souple, assez large. Il ne faut pas prendre des fouets trop petits. Il faut avoir la main. On prend le fouet tout en haut du manche et on ne serre pas le cou du fouet. Ouais, ça c'est important aussi. Non, fine branche.
C'est ça, et avec des huit.
Avec, alors les huit, ça c'est pour les sauces émulsionnées chaudes, c'est le petit tour de main du chef, ça impressionne beaucoup. Comme de ciseler les échalotes en général, quand on a un public, ça fait très fort.
Estherelle Payani a sorti son fouet. Oula,
je l'ai apporté parce qu'il m'a un peu porté bonheur, puisque j'ai passé mon CAP l'année dernière et j'avais un fouet à monter les blancs. Donc c'est un fouet très large en bas, et je suis allée à la boutique, à une boutique spécialisée. Ils m'ont dit, mais enfin madame, il y a deux types de fouets. Les fouets à monter les blancs très larges en bas, et les fouets à sauce qui sont quand même beaucoup plus longs et fins finalement. Mm-hmm. Donc moi je vous incite à bien regarder le fouet que vous avez chez vous, c'est peut-être...
Et moins souple,
une cause de ratage de sauce indéniable.
Absolument. Ah, les fouets de Estherelle Payani.
Le beurre blanc, Estherelle. On ne l'a pas précisé, mais ça a été inventé par une cuisinière.
Évidemment, parce qu'il fallait être sacrément culotté pour imaginer une sauce avec si peu d'ingrédients. Mm-hmm. Du vin blanc, de l'échalote, du vinaigre, du beurre, et basta. C'était le cas de Clémence Lefeuvre, qui a donc mis au point cette sauce en 1890. C'était dans son restaurant La Buvette de la Marine, à Saint-Julien-de-Concelles. Le resto existe d'ailleurs toujours, et il s'appelle Chez Clémence.
Et il paraît que ce beurre blanc serait né d'une étourderie ou d'un accident.
Alors, c'est quand même une légende culinaire qui court sur beaucoup de recettes. Ouais. Cette étourderie, ça me semble un peu gros, parce que ça serait plutôt né de l'amélioration d'une sauce au beurre que Clémence avait d'habitude de servir avec des poissons. Des clients chics auraient trouvé cette sauce un peu simplette, la qualifiant de sauce bonne pour les moules, et elle aurait bricolé vite fait, très bien fait, cette version, avec ce qu'elle avait sous la main. Sa sauce devint célèbre en même temps qu'elle, à tel point que lorsqu'elle mourut, le président Aristide Briand, qui était nantais, déclara que sa perte était un deuil national.
Ah oui, carrément. Et pourtant, les sauces et les femmes, ça a longtemps été quand même l'objet de superstitions aussi.
Oui, ça fut une époque où l'on disait que les femmes qui avaient leurs règles faisaient tourner la mayonnaise.
Non, mais
et
c'est incroyable, ouais.
Tout autre type de sauce.
Ah bon, c'est pas vrai?
Je vous mets au défi. Si la sauce est féminine d'ailleurs, comme l'andalouse ou la bordelaise, ce n'est en effet que par accord grammatical. La poutanesque, elle laisse quand même planer un doute, surtout si on choisit de l'opposer à la sauce vierge. La vierge ou la prostituée, décidément, ce sont les maîtres qui décide de qui passe à la casserole. S'il y a bien une sauce Albert et même une sauce Robert, je l'ai déniché dans l'ouvrage d'Éric Trochon, qu'une sauce salée baptisée d'un prénom féminin. C'est la sauce Ninon, page 206.
Eh oui, définition, sauce Ninon.
Là, vous me collez là.
Alors vous dites que c'est la sauce star des entremetteurs des tables royales du XVIIIe siècle.
Oui.
Un velouté de volaille crémé, parfumé d'essence de truffe, d'une pointe de curry, de brunoise, de carottes, céleri, oignons et d'un soupçon de duxelle. Petit mélange champignons, échalotes.
Je dois vous avouer que c'est pas celle que je fais le plus souvent quand
oui,
même.
C'est ça.
Mais ça m'a permis de la découvrir, Eric. Donc pour plus de parité dans les sauces, justement, ça serait bien de se mettre tous au fourneau pour inventer des sauces paulettes qui iront aux côtés des sauces poulettes.
Moi j'ai hâte de cuisiner la sauce Payani. Eric Trochon a des excuses de ne pas connaître la sauce Ninon, puisqu'il y en a beaucoup des sauces dans votre livre. C'est un énorme pavé qui cherche à rendre accessible à tout le monde les sauces à travers un process en photo, des explications très très claires. Vous évoquiez à l'instant la Vierge, restons-y, puisque page 129, il est question de cette fameuse sauce vierge, dont on ne sait pas forcément qu'il a un célèbre géniteur. Quel a un célèbre géniteur ?
Il semblerait que ce soit effectivement Michel Guérard. C'est une sauce star de la nouvelle cuisine française.
Alors Michel Guérard, on le resitue, hein, Eugénie-les-Bains,
enfin, voilà, il est parti de Paris, il est arrivé à Eugénie-les-Bains, il fait une cuisine autour de la santé, de la nature, et c'est un formidable cuisinier de cette génération. Notre père à tous, qui nous a précédés.
Toujours en activité.
Vierge, parce que utilisation d'huile d'olive vierge à l'époque. Et là, je vous ai préparé une petite vierge. Évidemment, il y avait un piège.
Oui, parce que la définition de la vierge au départ, on est d'accord qu'il y a de l'huile d'olive, donc extra vierge. C'est de cette huile d'olive, effectivement, que cette sauce signée Michel Guérard tire son nom. Mais il y a d'autres ingrédients pour apporter de la tonicité, de l'acidité.
Exactement, de la tomate andée, avec des herbes. Et puis un petit équilibre éventuellement avec une pointe de citron en finale.
Il y a de l'ail, il y a des capres.
On peut en mettre, effectivement.
On peut en mettre, voilà. Absolument.
Pour générer, balancer tout, ce qu'on disait tout à l'heure à propos du beurre blanc. Hein. C'est cet équilibre entre l'acidité et le gras, en fait, qui va, sur lequel repose la vierge.
J'ai demandé à Eric Trochon de nous préparer une vierge ce matin. Assez simple à faire. C'est une sauce froide, un peu comme une vinaigrette composée. Il m'a dit non, mais. Vous pensez quand même pas que je vais vous faire une vierge avec des tomates en cette saison?
Voilà,
bon,
c'était
réflexe.
Le piège, hein.
Bon, bravo. Réflexe. Alors, l'alternative hivernale.
Alors, eh bien, on a remplacé les tomates par des petits dés de butternuts. Et on a changé le citron par de l'orange, avec une pointe de vinaigre de cidre dans le fond pour rétablir l'acidité. Mais l'huile d'olive reste vierge. Donc, nous sommes bien sur une vierge.
Et ça alors, rigole pas de la mirepoix. Chez Eric Trochon, je peux vous dire, il n'y a pas un dé qui soit différent des autres.
Oh, c'est beau. C'est beau, le croquant du potiron, et c'est sur une Saint-Jacques
crue, voilà,
qui est très fondante et lactée en bouche. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien?
Parfait.
Non, il n'y a pas une petite critique?
Non.
Estelle?
C'est génial, le coup du potiron cru, en fait. C'est un goût très sucré, particulièrement doux et croquant. Il ne faut pas se rater sur la taille, en effet, pour ne pas avoir des gros morceaux à mâcher, mais c'est une super idée, j'adore.
Et bon... en gastronomie, il n'y a pas de petits détails, hein, tout compte. C'est-à-dire que l'appréhension qu'on va avoir au niveau de la bouche, il faut que les dés soient effectivement réguliers, pas trop gros, pas trop petits.
Mais ils sont crus, là.
Ah, ils sont crus,
c'est
absolument.
Magnifique.
C'était le principe.
Hein.
C'était
ça apporte
principe.
Du croquant. Non, mais c'est splendide. Bon. Puisque, effectivement, la sauce vierge est une sauce crue. Tout est cru ou fermenté comme les capes. Mais...
voilà, éventuellement. Non, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment c'est une sauce très, très moderne. Hein. Mm-hmm. C'est le prémisse des sauces, de ce qu'on appelle les sauces garnitures aujourd'hui. Et on peut jouer. Bon, là, on a mis du potiron cette saison. On peut essayer de la pomme, on peut essayer d'autres choses. Hein. On n'est pas obligé de rester sur la tomate.
Oui, une bonne Granny Smith, un peu croquante et acide.
Mm. Absolument.
On est à un moment donné de l'élaboration de la cuisine où la sauce devient un ingrédient du plat autre que seulement cosmétique ou complémentaire. Et on doit rendre ça quand même à Michel Guérin, puisque c'est quand même lui qui a commencé ça. Le fait que la sauce fasse partie intégrante du trépied, comme disait André Guillot, nécessaire à la stabilité d'un plat.
Oh, bravo. La sauce vierge, évidemment, une recette à retrouver. Bonne nouvelle, on peut la faire en toute saison. Vous remplacez la tomate par un fruit ou un légume de saison à retrouver sur franceinter.fr à la page « On va déguster ».
On va déguster.
Alors Estherelle, la sauce béarnaise, nous y voici. Est-ce que vous êtes allée jusque dans le Béarn pour enquêter sur cette fameuse sauce du répertoire français?
J'ai même pas eu à aller aussi loin. Il m'a suffi d'un coup de RER pour aller simplement à Saint-Germain-en-Laye. Car c'est dans les cuisines du pavillon Henri IV que cette sauce mythique serait née au XIXe siècle. Henri IV étant béarnais, son buste trônait dans la salle du restaurant et vous voyez tout de suite d'où est venu son nom. Le chef Patrick Capler continue de la préparer tous les jours. Et je suis donc allée prendre une leçon de sauce béarnaise avec lui. Alors, à vos fouets.
Donc là, je démarre ma réduction. Je mets dans une petite casserole donc, le vin blanc. À ça, je rajoute donc mon vinaigre. Enfin, mes vinaigres, mon vinaigre blanc, mon vinaigre de Reims. Le vinaigre de Reims, c'est du vinaigre de champagne, on va dire. Qui est quand même meilleur que le vinaigre classique, quoi.
Parce que dans la recette originale, il n'est pas précisé le type de vinaigre utilisé.
Non, mais du vinaigre, c'est moi qui ai rajouté une petite touche de vinaigre de Reims, ainsi qu'une pointe de balsamique aussi. L'estragon, l'échalote, le pois mignonnette et une pointe de sel. Une fois que ma réduction sera réduite, donc aux trois quarts, je vais incorporer mes jaunes d'œufs.
Est-ce qu'il faut qu'il reste quand même du liquide dans la réduction?
Oui, il faut qu'il reste un peu d'humidité, autrement ça risque de brûler directement, quoi. Et ensuite, je vais monter donc en fouet en formant un 8. Je vais faire comme un sabayon, mais pas incorporer trop d'air. Pour être sûr de la chaleur et que vous arrivez à laisser poser la main sur le côté de la casserole, là c'est bien. Pour un petit truc, à partir du moment où on va être sûr que les jaunes soient cuits, il faut qu'on voit le fond de la casserole. 5-6 minutes. Donc là, je retire ma casserole du feu. Et là, donc, je vais incorporer mon beurre clarifié. Tout doucement, en petit filet. Et là, vous voyez, il y a l'émulsion qui est en train de se créer. Voilà, donc là, on est quasiment bon. On va rectifier l'assaisonnement. Et donc là, je vais incorporer mon cerfeuil ciselé avec mon estragon. Ça va donner la finition, en fait. Hein. Voilà, donc là, la béarnaise est terminée. Alors, cette recette-là, moi, je la sers au pavillon Henri IV, donc avec un cœur de filet de bœuf de Salers et des pommes soufflées. Qui ont aussi été inventés au pavillon. Voilà, c'est notre recette signature qui dit sauce béarnaise, béarnais, pavillon Henri IV, Henri IV, voilà.
La recette de Patrick Capler que vous êtes allé capter avec le micro de France Inter et Sterel, à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Le vinaigre balsamique, ça n'a pas trop plu à Eric Trochon, hein, on va le dire.
Oui, non, on n'était pas obligé là. Hein. C'est pas la petite touche de l'époque. Je pense qu'on reste,
on reste classique.
Alors après, faut pas non plus être enfermé dans ces classiques. On l'a vu avec la Vierge. Hein, faut mm-hmm. savoir dériver. Mais il y a un esprit. Chaque recette a un esprit. Chaque sauce, a un esprit.
C'est ça.
Il faut respecter l'esprit.
On est d'accord.
Il y en a vraiment qu'une cuillère à café. Hein.
C'est
vraiment
juste
la
pour
petite
apporter un peu de rondeur.
Exactement.
D'accord.
C'est pardonné.
Estherelle, on entendait évidemment beurre clarifié, qui est à la base de cette sauce béarnaise. On rappelle à nos éditeurs la définition d'un beurre clarifié, s'il vous plaît.
C'est du beurre fondu à feu très doux, dont le petit lait tombe en bas de la casserole. Ainsi, on se débarrasse de la caséine qui le fait brûler. En gros, c'est du beurre sans l'eau et sans les impuretés, presque de l'huile de beurre, on pourrait dire, qui est beaucoup plus stable à la cuisson.
C'est ça. Et vous savez ce qui se passe, Estherelle, Sébastien, Eric, quand on remplace cette matière grasse qui est le beurre par une autre matière grasse plus sud-ouest?
Ça sent le daguin, ça.
Ça sent le,
ça sent le daguin. Mais ben ça,
vous croyez pas si bien dire.
La sauce occitaine, et oui, c'est mon paternel, Auguste, encore lui. Et on le salue, qui, bah, évidemment, a le souci de cuisiner local, mmh. et avec les ressources locales, donc celles qu'on avait dans la cuisine. À l'époque, on tripotait à peu près 20 à 40 kilos de foie gras par semaine en saison. Donc. On avait de quoi faire en termes de graisse de foie gras, qu'on pouvait faire clarifier comme le beurre, pour faire descendre les impuretés, et dont on se servait pour monter la béarnaise, qui du coup devenait un peu plus instable. Et on en montait souvent deux par service, Eric, parce que il n'y avait pas moyen d'en tenir une tout au long. Hein, voilà. Donc on démarrait la seconde au milieu du service, mais c'est une touche absolument délicieuse hein, dans la béarnaise.
Vous nous rappelez son nom ?
L'occitaine. Donc
on va se mettre à l'occitaine. Voilà, une béarnaise où le beurre est remplacé par...
la graisse de foie gras.
De la graisse de foie gras et pas de la graisse de canard.
Ah non, la graisse de foie gras.
La graisse de foie gras. Ouais, c'est très important à préciser.
Et bien donc, dans cette lignée de grands chefs, on va dire André Daguin, dans la lignée des béarnaises, mais aussi ne pas oublier Jean-Louis-François Collinet, donc le créateur de cette béarnaise en 1837, un grand chef un peu oublié, qui a quand même œuvré très longtemps au pavillon Henri IV, ce lieu mythique construit sur les ruines de l'ancien château royal, où l'on peut même aller voir la chambre où Louis XIV est né, avant d'aller se régaler comme un roi ou une reine d'un pavé de bœuf, béarnaise et pommes soufflées qu'il a aussi inventé.
Absolument, on teste les connaissances d'Éric Trochon. La béarnaise, c'est une grande famille qui a ses cousins, ses cousines. Quand on ajoute à une béarnaise de la tomate...
Choron.
Bravo.
Oui.
Quand on ajoute de la glace de viande...
Foyot.
Bravo. Quand on remplace l'estragon par de la menthe...
Paloise.
Incroyable.
Vous avez
alors, c'est marrant parce que
ou pas.
Et si la choron, je rajoute un petit peu d'anchois.
C'est une très bonne question.
Elle est très compliquée, enfin, cette sauce, elle figure nulle part.
C'est une arlésienne.
Il le savait, Sébastien ?
Non.
Non, parce qu'il rigole. Non.
Et si on part sur des zestes de petites oranges confites ?
Ah.
Ah non.
C'est une maltaise.
Ah non, ça, la maltaise est à base de sauce hollandaise.
La sauce reine d'André Guillot.
Ouh là là.
Attends, débat là.
Querelle sur le plateau dont on va déguster. Il y a Estherelle qui est en train de sortir.
Elle est armée d'un fouet.
Moi, je vous comprends. C'est qu'on va apaiser les esprits avec une petite pommade musicale et on se retrouve juste après pour évoquer ce fabuleux Tour de France de Sébastien Formal, Jean-Louis Murat. Je me souviens. Soyez bien sur France Inter.
Je me souviens d'une terre brûlée alentour, d'une vallée de larmes où chacun cherchait l'amour. Je me souviens des frémissements les plus légers. Je me souviens. En demi-conscience, j'allais au fond des ténèbres. Sous ta robe blanche, la nuit est surnaturelle. Je me souviens d'une voile tendue au fond de la nuit. Je me souviens. Je me souviens d'un monde dans l'univers. Je me souviens de l'appel de la lumière. D'une dame en noir qui gifle le loup des mers. Je me souviens. Je me souviens par l'abri dans l'obscurité. Je me souviens de l'altitude où je me trouvais. Je me souviens boire dans un même ruisseau. Je me souviens. Je me souviens d'un assassin dans la montagne, une digue, un pont, la bataille de Wagram, d'une milanaise et d'un qui vient à mourir. Je me souviens. Je me souviens de matins passés hors de France. Je me souviens du regard des gens de Florence. Je me souviens de savantes mains de bourreau. Je me souviens. Je me souviens que le cœur frémit d'amour, que l'amour s'en va si orgueille avec amour. Je me souviens qu'on me déshabille à la nuit. Je me souviens. Je me souviens du parfait vassal que j'étais, pensant ta voix basse, pourquoi veut-elle me tuer? Je me souviens comme agité de tremblement. Je me souviens. Je me souviens que le père venait de mourir, d'une armée anglaise piétinant mes souvenirs. Je me souviens de Murat aux portes de Naples. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens, 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 je me souviens.
Nous sommes en direct sur les ondes de France Inter pour un On va déguster à toutes les sauces avec pas mal de questions qui tambourinent à l'oreille d'Estérel.
Alors, surtout, beaucoup de questions. Comment garder les sauces au chaud? C'est Alexis qui nous demande un truc miracle pour les conserver,
c'est
notamment
question,
la hollandaise.
Oui.
Petit bain-marie, température de la main, 40 degrés et on couvre la sauce.
D'accord. Voilà. Et là, a priori, ça ne
donc
tranche pas.
Donc on la met
pas.
Au bain-marie. Hein, d'accord. Non, température de la main, ça va.
Très bien. Autre question.
Beaucoup de questions sur la blanquette. Une grande obsession française, justement.
Vous évoquez la blanquette de veau.
La blanquette de veau. Mm-hmm. Catherine demande à quoi sert le jus de citron en fin de recette et comment bien lier cette sauce.
C'est vrai qu'il est indispensable, ce jus de citron.
Jus de citron au point d'acidité, c'est pour réveiller la sauce, lui donner un petit peu de fraîcheur et un petit peu de profondeur également. C'est une sauce qui a tendance à être un petit peu ronde, je dirais pas lourde, mais un peu épaisse. Et il faut l'animer juste en fin. Mais ça sert à rien si vous refaites bouillir derrière.
Est-ce qu'il faut, j'ajoute un complément, on voit souvent des chefs dans la tradition lier cette blanquette au jaune d'œuf, cette sauce de blanquette.
Oui, c'est la liaison riche. C'est crème et un jaune d'œuf fouetté, on l'incorpore. Par contre, après, impossible à réchauffer à plein feu. Hein. Faudra que ça reste au bain-marie également.
Très bien.
Et une demande concernant la gastrique de Jean Burlot, qui demande à quoi ça sert en cuisine.
Alors
c'est
déjà,
quoi déjà une gastrique?
Ben, c'est un caramel de vinaigre et de sucre. C'est probablement la plus ancienne trace de l'aigre doux dans notre cuisine contemporaine, puisque sur la cuisine du Moyen-Âge, il y avait d'autres utilisations avec le verjus notamment. Mais chez nous, c'est vraiment, on peut considérer l'ancêtre des sauces aigre douce. C'est la base de la sauce du canard à l'orange,
notamment.
Ou de la Montmorency, par
Très
exemple.
Bien. Et elle figure évidemment dans votre livre.
Elle figure avec le tour de main spécifique pour avoir le caramel de la bonne couleur. Ni trop cuit, ni pas assez. Pas assez, c'est sucré. Trop cuit, c'est amer. Alors, il faut trouver le bon équilibre.
Sauce, leçon en pas à pas pour décomplexer tout le monde à la maison et pour se lancer dans une béarnaise, un beurre blanc et autres sauces, signé Éric Trochon, meilleur ouvrier de France, aux éditions du Chêne. Sébastien Formal, breton.
Oui.
Ce n'est pas un défaut. Moins de 30 ans.
C'est une qualité.
Encore moins. Vive la jeunesse. Vous avez appris les sauces, j'imagine, auprès de Guy Savoie, auprès d'Akram Benalal, de Jean-Pierre Vigato chez Apicius.
Oui.
Vous les maîtrisez?
On est...
Vous espérez?
J'espère.
Aujourd'hui, vous êtes où?
Aujourd'hui, je suis chez Le Cointre Restauration Paris, donc la restauration d'entreprise haut de gamme. Je suis au restaurant 32 Blanc chez Criteo,
seconde
cuisine. Et,
dans le 9e arrondissement de Paris.
Oui.
Vous êtes avec nous pour un livre qu'on a beaucoup aimé, Sébastien, qui est entre le carnet de voyage et le recueil de recettes. Sébastien qui cuisinait à vélo, c'est chez Larousse, avec les photos d'Emery Chemin.
Exact.
Vous avez dû vous côtoyer pas mal, hein, puisque vous avez fait un tour de France qui vous a pris un an?
10 mois, un peu moins d'un an. Ouais.
Un livre que vous définissez vous-même comme un livre de partage, de recettes, d'émotions, d'anecdotes, de voyages?
Oui, c'était un voyage humain d'abord, parce qu'il n'y a pas de produits sans hommes. Et je voulais repartir sur le terroir, voir les gens, simplement, qui font le terroir français. Et sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui.
Comment avez-vous eu cette idée ?
Mon papa est agriculteur et j'ai connu un environnement petit de produits. Le cochon à la maison, la pêche à pied, la pêche en mer, le potager, le verger.
Le bar sauvage.
Et partant à Paris, j'ai malheureusement quitté cette sphère de produits. Avec des produits qui arrivaient certes de région, mais qui manquaient d'âme. Et j'ai voulu repartir voir les gens qui font les choses sur une démarche totalement personnelle à but non lucratif. Et le but était de donner un coup de main en échange du gîte et du couvert.
Quand
c'était possible, c'était de cuisiner, de régaler les gens qui m'accueillaient. Voilà.
Au début de votre livre, il y a une belle carte de France où on voit quand même tout le chemin parcouru du nord au sud. Alors, malgré quelques régions, vous n'êtes pas allé totalement partout, mais vous avez fait énormément de régions. Manque peut-être la Côte d'Azur et l'Alsace. Pourquoi avoir choisi ? Alors, évidemment, au-delà de sa dimension écologiquement responsable, pourquoi avoir choisi le vélo comme moyen de transport ?
Déjà, par rapport au jugement des gens qui m'accueillaient, quelqu'un qui arrive en voiture ou en vélo...
On lui offre pas le gîte et le couvert,
voilà, c'est ça ? Voilà, en moto, peu importe... C'est pas qu'on lui offre pas le gîte et le couvert, mais on a une approche différente. Et c'était de donner sa personne physiquement et sportivement d'un point A à un point B, d'arriver, de partir de Waplage et de terminer à Avignon et de dire qu'est-ce que t'as fait entre-temps et combien de kilomètres t'as fait pour arriver chez nous. Et chaque rencontre était finalement très simple puisque ils n'avaient pas d'a priori. Donc en fait, on se découvrait au fur et à mesure des jours. Et quand je repartais, c'était toujours difficile puisque considéré comme une famille éphémère, mais voilà, c'était un perpétuel recommencement. Ouais.
Est-ce qu'à cette idée, à votre âge, vous avez été formé à la cuisine, souvent on reproche, et je vais demander aussi l'avis à Éric Trochon, aux formations professionnelles, les lycées hôteliers, les CAP, de déconnecter les jeunes apprentis des produits, des saisons. On apprend évidemment à émonder des tomates en plein hiver, on apprend à faire des salades niçoises au mois de février. Est-ce que cette idée, justement, c'était de se reconnecter à un terroir un peu oublié par les gens de votre génération quand même ?
Alors oui, l'avantage que j'ai eu, c'est que moi j'ai pu connaître ça, mais beaucoup de cuisiniers n'ont pas pu avoir cette chance. Alors j'ai connu ma Bretagne du sud de 0 on va dire à 20 ans et de 20 à 8, j'ai eu ces produits par procuration et je voulais repartir voir ces produits. Alors après c'est vrai que on est dans une bulle, on travaille beaucoup. Et on est connecté, certes, via les saisons, via les arrivages, mais on n'est plus sur des terroirs, sur des odeurs, sur des...
Vous dites très justement dans l'introduction de votre livre que quand on est enfermé dans la tour d'ivoire d'une cuisine, à plus forte raison quand c'est la cuisine d'un grand restaurant, on n'a pas forcément le temps d'aller sur le terrain et on ne se rend pas forcément compte de la valeur du produit, de ce qu'elle a demandé en termes d'efforts, de sacrifices, de travail. Éric, vous n'avez pas l'air d'accord.
Non, là, tout ça a bien changé. Là,
oui, chez vous, ça a changé. Ça, voilà. On peut en témoigner. Mais pas partout.
Et en plus, bon, vous savez que j'enseigne à l'école Ferrandi, hein, qui est une école qui compte dans le panorama des écoles de cuisine. Et les élèves sont très connectés sur les saisons aujourd'hui. Ça, c'était valable quand j'étais à l'école hôtelière. J'étais à l'école hôtelière dans les années 80. Effectivement, on avait 10 légumes pour faire toute la saison. Aujourd'hui, on a rien que dans les betteraves, on a 10 variétés.
Et vous sensibilisez vos élèves aux saisons, à la valeur des produits, à l'agriculture paysanne et durable.
Absolument, et surtout ce qu'on essaye de dynamiter, et je pense qu'on est bien d'accord avec Arnaud là-dessus, je suis désolé, mais à un moment donné, c'est d'aller voir les gens qui nous font les produits. Moi, je passe beaucoup de temps à aller voir les gens qui nous apportent les produits à Sémilla. Je pense à Pierre Gaillet, que je salue aussi. Hein. Pierre Gaillet qui se trouve au centre de la France et qui me fait tous mes légumes, une partie de mes légumes. Il a beaucoup de mal, c'est très difficile. J'ai fait un déjeuner pour lui, je me suis déplacé, on a reçu ses clients. Ça a changé aujourd'hui depuis une dizaine d'années. Et grâce, entre autres, au travail, j'en profite puisqu'il est là, c'est pas de l'allégeance, hein, c'est juste que Arnaud a fait un boulot incroyable.
Arnaud ?
Ben, ça fait un petit moment hein, que culturellement ça rentre et je pense qu'on va y arriver, quoi, tout simplement.
Et qu'est-ce que vous pensez d'un jeune de 28 ans qui décide de prendre son vélo
et qui
découvre au bord de son guidon le terroir ?
Il prend sa vie en main et dit tiens, je vais aller voir un peu de quoi il retourne vraiment sentir, toucher, connaître.
Vous vous sentez plus mature à la suite de ce Tour de France, Sébastien?
Absolument. C'est un autre regard que j'ai sur, déjà sur la France. Mm-hmm. Puisque je l'ai vu, mais je l'ai pédalé.
Donc, voilà. Combien de kilomètres d'ailleurs?
3700.
3700 kilomètres. Ah oui. Allez, une rencontre comme ça qui vous a marqué. Je sais que vous avez fait énormément de rencontres, des dizaines. S'il y en avait une qui vous a marqué l'esprit ou les papilles?
Benoît, Hélène Lefebvre à Saint-Germain, à côté de Villeneuve-sur-Lot.
Oui.
Qui sont producteurs de pruneaux mi-cuits.
Non, vous nous les avez apportés.
J'en ai amené.
Non, chouette. Allez-y, ah, wow. Dégainez. Des pruneaux mi-cuits.
Ouais, pruneaux mi-cuits. Donc, tout le monde connaît le pruneau. Mm-hmm. Et le pruneau, entre guillemets, basique, il est desséché à 0% et réhydraté. Et là, dans le cas présent, il est séché à une trentaine de. Il est séché à une trentaine de pourcents.
Attention au noyau, Arnaud. Oh, quel bonheur.
En fait, c'est un bonbon, en fait. Mm. Et donc, ça représente. Ils sont 1200 producteurs de pruneaux.
C'est pulpeux, c'est sucré. Mmh.
Et ils sont 3% à faire ce genre de produit. En fait. Mmh. Donc c'est une niche quasiment.
Incroyable. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce pruneau?
C'est magnifique. Hein.
C'est magnifique.
Magnifique.
Comme
on
n'a
presque pas envie de le cuisiner.
Voilà,
en fait.
C'est ça. J'allais vous demander quelle fête vous alliez lui faire en cuisine, Éric Trochon.
Non, il y a des choses, on ne touche pas. Ouais, il y a des choses, voilà, quand c'est fabuleux comme ça, on n'y touche pas.
Tu les poses.
Vous nous recitez le nom de ces. Ils expédient en France, aux particuliers?
Ouais, ils sont en train de passer la main.
Oui.
Donc il y a des jeunes qui sont arrivés fin d'année dernière. Mm-hmm. Benoît Hélène Lefebvre à Saint-Germain.
D'accord. Un autre produit comme ça que vous avez découvert dans votre périple?
Laissez-lui cracher le noyau, François.
Les figues farcies au foie gras.
Les figues farcies au foie gras, ouais. On reste dans le sud-ouest, j'imagine.
Ouais, famille Tribier à Paulin, en Dordogne.
Faites passer.
Périgord Noir.
Allez.
On va les couper, Estherelle va s'en occuper. Je ne veux pas vous demander de faire le service, Estherelle, mais c'est tout comme. Un autre produit comme ça, je vois que le plateau dont on va déguster est plein de bonnes choses.
On a de la terrine de la maison aussi.
Oui.
Terrine de cochon, donc on tue le cochon à la maison.
À l'âle de la maison, vous voulez dire chez vous, dans le Morbihan?
Ouais, à Kerbasco exactement, côté de la Ria d'Etel.
Oui.
Et donc on tue le cochon deux fois par an à la maison. Mm-hmm. Donc on est très simple, c'est pâté, saucisse et boudin. Voilà. Donc
ça fait bien.
C'est classique.
On peut
ça marche. Et on va goûter après. Là. Dès que j'ai le couteau, on va goûter ça.
D'accord. Et il y a également un fromage que vous avez découvert en Vendée, je crois.
Oui, à la ferme de la Chancelière au Giroir. Mm-hmm. Avec Dominique et Jean-Luc, qui mm-hmm. font de la brebis. Ils ont les trois. Ils ont Basco, Béarnaise, Manèche, Tête Rousse.
Ah oui.
Et donc, c'est un pari aussi. C'est un pari aussi. Et je suis arrivé chez eux. Ils étaient sur la traite à la main.
Oui.
Ils allaient passer sur la traite mécanisée. Mm-hmm. Je les ai revus il y a 3 semaines de ça. C'est pour ça que j'ai du fromage d'ailleurs de chez eux. Et en fait, ils ont attaqué la traite mécanisée, mais ils sentent pas en fait.
D'accord.
Ils sentent pas ça. Les brebis sont stressées.
Donc ils vont revenir
donc,
à la traite manuelle. À la main.
Donc là, on était une dizaine de brebis quand j'y étais. Là, ils sont à 25, donc ils vont continuer à la main en fait.
Des rencontres, de formidables produits du terroir, des recettes, Sébastien Cuisinier à vélo, photographie d'Emery Chemin. Il y a des recettes vraiment très intéressantes, dont certaines figures sur le site internet dont on va déguster, dont une recette qui devrait plaire à Arnaud, ce sont des poireaux rôtis au four. Mmh. Intéressant.
Oui, que j'ai fait pendant le tour d'ailleurs.
Oui.
Dans la Somme.
On prend des poireaux entiers,
rôtis, ouais,
on garde même les radicelles. Hein.
Ouais. Comme ça, ils gardent leur tenue au four en fait. Et donc l'hiver, tout le monde a ses poireaux. En principe, des poireaux dans le frigo. Il y a toujours un yaourt qui traîne. Donc on va le pepser avec un peu de citron ou du vinaigre, un peu d'échalote, une petite cheese de jambon pour mm-hmm. amener un peu de salé, un peu de croquant. Mm-hmm. Et derrière, un peu de fromage, ce qu'on a.
L'hiver, le poireau, il n'est pas en principe dans le frigo, il est en principe sur la fenêtre.
Oui, hein,
oui absolument, sur la fenêtre.
Et puis on met au four. Frigo, voilà. Mais...
Ouais. Et on fait un rôti, un poireau rôti entier au four avec un cœur très fondant, c'est délicieux. Vous restez avec nous, évidemment, Sébastien Formal. On partage votre terrine pendant qu'Arnaud Daguin assène son coup de lame.
Sur France Inter, on va déguster.
La sauce, préparation liquide ou semi-liquide servant à masquer les erreurs. Tiens, j'en profite pour citer Georges Bernard Shaw.
Shaw, Georges Bernard Shaw, vous parlez du dramaturge irlandais du 19e siècle.
Oui, c'est mon quasi-sosie sur le plan pileux.
Ah oui, je peux en témoigner.
Je le cite donc. Les architectes dissimulent leurs erreurs sous le lierre, les médecins sous la terre et les ménagères sous la sauce.
C'est méchant.
Sauce blanche, verte, tomate, gribiche, soubise, ravigote. Est-ce que toutes les saucissons? Ah non, il y a aussi la sauce à l'ail. Et nombreux sont les antistes au salaï. On se souvient de ce cri de Bernie Bonvoisin du groupe Trust au siècle dernier. Antistes au salaï, tu perds ton sang-froid. Bon, je sors. Faut que j'aille au lit.
Ouais, parce que vraiment, Arnaud, vous faites de la daube.
Mais oui, je rouille. Je suis sans doute un vieux croton. Bon, en fait, je vous l'avoue, la sauce, c'est plus mon souci. J'en ai trop fait, trop servi, trop saucé. Je ne suis plus sous l'emprise de l'amour saucier. J'ai plutôt envie de vous parler de la sauce.
De quelle sauce, Arnaud ?
De la sauce, de notre sauce, de l'association pour une agriculture du vivant, dont je suis le haut-parleur. Une sauce dont le but est de réunir tous les acteurs de l'alimentation pour nous sortir de la panade. Et la mayonnaise prend. Il y a de plus en plus de paysans, de structures agricoles, d'entreprises et même de territoires qui réalisent enfin qu'il nous faut tous travailler ensemble pour l'avenir.
Pour l'avenir, mais de la planète.
Pour l'avenir de l'humain. Notre destin commun dépend grandement de notre alimentation à tous. Si nous voulons durer encore un peu sur cette terre, il faut que nous, tous nos produits alimentaires soient bons. Pas seulement bons à manger pour notre santé, il faut aussi qu'ils soient bons parce que leur mode de production protège nos écosystèmes et les sols qui les portent. Et surtout, il faut qu'ils soient bons parce qu'ils rémunèrent justement le labeur des paysans et leur permettent ainsi de se projeter et de transmettre sereinement. Tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour faire une agriculture et une alimentation dans le fil du vivant. Énormément de gens travaillent sur tous ces sujets, et depuis longtemps déjà. Mais là, comme dans un plat en sauce, il ne suffit pas de réunir les ingrédients. Il faut aussi du liant. Faire échanger et bosser ensemble des gens qui habituellement ne se parleraient même pas. Des PDG avec des paysans, des scientifiques avec des politiques, des ingénieurs agro avec des cantinières, des bio avec des conventionnels. Et mon boulot, c'est d'être le liant de la sauce. Et pourtant, je ne suis pas roux. De cuisinier, oui, pardon.
Ah oui.
Cuisinières et cuisiniers, mangeuses et mangeurs, humains quoi. Renouez le lien avec ceux qui vous nourrissent. Exigez les bonnes infos, partagez-les. Ne vous laissez plus berner par les gimmicks du greenwashing, les emballages marron et vert, le bucolique industriel. Le vivant ne se singe pas. Regardez bien, choisissez avec conscience, consommez intelligemment. Vous dégusterez ainsi votre futur à la sauce suprême.
Merci beaucoup Arnaud. Et si on veut en savoir plus sur cette association pour une agriculture du vivant, il existe...
On va sur agriculture-du-vivant.org.
Agriculture-du-vivant.org. Est-ce qu'Éric Trochon en fait partie ?
Pas encore, bientôt.
Très sensible à ces questions, Éric.
Oui, oui, très sensible d'abord de rencontrer les gens. Effectivement, j'ai pas fait le tour de France à vélo, mais j'y vais régulièrement. Mm-hmm. Le lien, c'est vraiment... Et les rencontres, c'est aussi le métier de cuisinier.
Vous qui avez rencontré des dizaines de producteurs, de pêcheurs, de cuisiniers à travers la France, Sébastien Formal, est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir de notre terroir français ? Est-ce que on pourrait considérer que l'agriculture productiviste recule pour laisser place à des artisans, du goût, plus respectueux, des sols, de la planète ? Quel constat vous dressez comme ça globalement, même s'il est compliqué, j'imagine, à l'échelle de la France, de faire un constat univoque ?
C'est un métier de passion, donc c'est prenant. Mmh. Et donc tant qu'il y aura des passionnés, il y aura des produits. Comme la cuisine d'ailleurs. Donc c'est... Si ces gens existent aujourd'hui, c'est aussi grâce aux cuisiniers. Mmh. Donc nous sommes le liant et...
Vous êtes porte-parole aussi.
Tant qu'on les défendra, tant qu'on les valorisera, ils seront là. Ouais.
Elle est incroyable cette terrine. Non, mais ça, je l'ai boulotté pendant la chronique de... d'Arnaud. Ah, vous en pensez quoi de cette terrine ?
Elle est magnifique.
Et vous l'avez dans votre livre ?
Oui, dans le livre, c'est avec du sanglier.
D'accord. Voilà.
Mais c'est la même base. C'est la même base. Ouais.
Éric Trochon.
Moi, je voulais dire quelque chose quand même. C'est qu'à un moment donné, le juste prix. C'est-à-dire, c'est quoi le juste prix de tout ça ? Parce que là, on est dans le bucolique, on est dans un monde de bisounours. Mais redonnons à ceux qui nous donnent ces magnifiques produits du pouvoir d'achat. Laissons-les vivre, tout simplement. Hein. Et donc, à quel moment on ne peut plus acheter pas cher ? C'est-à-dire qu'il y a un prix pour chaque chose. Et ça, je crois que c'est important. Il y a un prix pour les restaurants, il y a un prix pour les produits. Arrêtons d'aller chercher toujours moins cher, puisqu'on finit dans le fossé.
Absolument. Toutes les valeurs ont un prix et une valeur. Donc, il va falloir qu'on se mette d'accord là-dessus. Une carotte qui permet de se projeter dans l'avenir n'a pas la même valeur qu'une carotte qui nous envoie en enfer, c'est tout.
Oui, on est d'accord.
Mais il faut que ça reste accessible. Tout le problème.
Oui, bien dit. Ça veut dire qu'on peut, on est capable de payer les services qu'elle rend à côté du produit. C'est ça qu'il faut commencer à réfléchir. Et d'ailleurs, c'est en train de se réfléchir.
Ça vous dit de remettre la sauce au centre de la table ?
Allez.
Par exemple ?
Allez, on finit par quelques petites énigmes intéressantes qui, j'en suis sûr, vont intéresser nos auditeurs. Gribiche, ravigote, on a tendance à les opposer, elles sont cousines très très germaines, hein, voire très très proches. Différence entre gribiche et ravigote, il en a une idée ou pas Sébastien? Est-ce que vous savez faire gribiche ou ravigote?
Oui, c'est la gribiche est apparentée à une espèce de mayonnaise.
C'est vrai.
Et la ravigote à une espèce de vinaigrette.
Exactement, voilà. On peut dire ça, hein. c'est bien résumé.
Elles sont souvent parentes parce que leur champ d'application est le même. Mm-hmm. Des abats blancs, cervelle, etc., petits beignets.
Bonne tête de veau, hein, évidemment. Et c'est vrai qu'il y en a une qui est davantage qu'à la texture émulsionnée d'une mayonnaise, c'est la gribiche, donc elle prend du volume, elle est plutôt blanche, hein, ça c'est l'émulsion, et c'est on part en fait d'un œuf, jaune dur.
D'un jaune mollet.
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 Que l'on émulsionne.
Absolument.
Et puis il y a en commun entre les deux des cornichons, des câpres, des fines herbes, du vinaigre et beaucoup d'autres choses encore.
Et c'est pour ça qu'elles sont face à face dans le livre.
Oui. On nous signale qu'il y a une cousine de la Vierge du côté des Antilles, de cette France des dom-toms, c'est la sauce chien.
Oui, la fameuse sauce chien. Alors j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi on l'appelait chien. Et finalement, chien, c'est le couteau qui sert à couper les herbes dans les bonnes cuisines aux Antilles. C'est un couteau de la marque chien.
C'est de la marque chien. Moi, je pensais qu'en raison de...
Non, mais c'est vrai. C'était le piquant.
Le piquant, c'était une sauce qui mordait, quoi.
Voilà, non, c'est un
chien
chef.
Enragé, vous voyez ce que je veux dire.
C'est un ami chef martiniquais avec qui j'ai passé du temps justement aux Antilles, qui m'a fait découvrir la gastronomie locale et qui m'a ramené le fameux couteau chien. Donc la ménagère, c'est un couteau extrêmement solide. La cuisinière antillaise va couper à poignée directement les herbes dans la sauce avec ce couteau chien.
Très bien. Qui saurait me conseiller sur ce plateau une sauce que j'adore, qui est vraiment un petit péché mignon, c'est une belle sauce au poivre avec une viande rouge de qualité. Vous savez la faire ou pas, Sébastien?
Sauce poivre?
Ouais.
Oui.
Il me regarde, mais il se moque de moi ou quoi? Je ne sais pas faire de sauce poivre.
Sauce poivre, alors sauce poivre de base, on caramélise la viande.
C'est ça. Il y a des
poivré,
sucres,
déjà, poivré de,
avec un poêle ou du sautoir.
Mignonnette.
Oui.
Après, on flambe au cognac. On déglace au vin blanc.
Oui.
On peut mettre de l'échalote
au vin
blanc,
ça alors. Ou à l'armagnac ou au Porto.
Oui, enfin, on peut aussi effectivement déglacer au vin blanc. Pas forcément au Porto, on va sucrer. Hein,
d'accord.
Donc, c'est pas l'idée.
On peut mettre des échalotes aussi. Mm-hmm. Si on... libre à soi.
Professeur Trochon est d'accord ou pas?
Moi, je suis pas trop pour les échalotes, mais après, ce qui se passe, c'est que c'est intéressant parce que c'est une sauce minute. Hein,
oui.
Ça fait partie de ces petites sauces qu'on fait. Vous dites, les sauces sont difficiles. Non, les sauces sont pas difficiles. Vous allez trouver dans le livre la sauce grand-mère. C'est la sauce du rôti. Hein, quelques échalotes autour du poulet ou autour du rôti au four. Et là, la sauce poivre, c'est ça. Vous panez votre steak dans le poivre, vous le mettez dans votre poêle. Attention à ne pas faire brûler le poivre, très important. Mm-hmm. Pas faire brûler la matière grasse. Et c'était rigolo parce que c'était une sauce de maître d'hôtel dans le temps.
C'était
une sauce de Guéridon,
on la crème
fabuleux.
Ou pas?
On la crème.
On la crème. Oui.
On la crème. Mm-hmm. Alors pareil, équilibre entre le piquant, le gras, l'acidité, pas trop de cognac. Enfin, c'est délicat à réaliser. Mais c'est une jolie sauce.
C'était une sauce de maître d'hôtel. Ça se faisait au Guéridon devant le client et on flambait la pièce, on la gardait au chaud et on faisait la sauce en direct.
C'est
je me souviens de ça. Hein. C'était comme les flambages de dessert. Ça se faisait. On leur préparait tout. Et hop, ça se faisait au moment.
Il y a la mayonnaise, il y a évidemment la béchamel, il y a même, figurez-vous, des sauces sucrées dans votre livre.
Oui, parce que ça ne s'arrête pas au salé, il y a aussi quelques sauces sucrées. Vous allez trouver des sauces qui sont empruntées également. La cuisine française, en fait, est une cuisine d'emprunt. Vous allez trouver le sabayon, hein, qui vient directement de l'Italie.
Bien sûr.
La sauce sabayonne. Ouais. Et vous allez trouver la fameuse sauce Suzette, autre travail au Guéridon sublime.
Avec du jus d'orange.
Avec du jus d'orange.
Flambé ou pas flambé, une Suzette? Il y a débat aussi.
Il y a débat. Grand Marnier ou pas Grand Marnier?
Voilà,
il y a les mandarines ou Grand Marnier?
C'est ça, pour accompagner de bonnes crêpes. Et bah, écoutez, vous tranchez tous ces débats dans un formidable livre, Sauce, leçon en pas à pas pour apprendre à réaliser les grandes sauces de notre patrimoine à l'appui quand même de 3000 photos réalisées par votre ami. Les photos.
Jean-Charles Vaillant.
C'est ça, aux éditions du Chêne.
Voilà, et surtout, n'ayez pas peur, saucez, faites des sauces.
C'est ça, quand on sort en général, le pain, c'est bon signe. Sébastien, cuisinier à vélo, il est très chouette, votre livre, ça peut être une très bonne idée. Sous le sapin de Noël, un tour de France, 35 rencontres, 50 recettes à partager. C'est chez Larousse, merci d'avoir été là.
Merci à vous.
Et vous signalez également, si vous voulez, du rab, dont va déguster l'émission Joue les prolongations sur les réseaux sociaux de France Inter à travers une collection de vidéos intitulée Tout un plat. Ce mois-ci, plein feu sur le kebab, ce totem de la cuisine de rue que l'on décrypte et que l'on déguste en images. Un reportage à retrouver sur les chaînes et les réseaux sociaux de France Inter, Dailymotion, YouTube, Twitter, Facebook. La semaine prochaine, ça va charcuter. On parle pâté en croûte, autre cochonaille, avec les artisans Arnaud Nicolas et Johan Lastre. Il y a du mauve dans l'air aussi. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.